Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne, j'espère, jeudi 7 décembre 2017. Bonjour Mathieu Tessier.
Bon matin.
Est-ce que vous aimez la musique thème qui accompagne
le titre?
Oui.
C'est d'ailleurs Christine Campagnan qui travaillait avec nous, qui me l'avait présenté. Et depuis, je l'y suis.
Et ben, vous me disiez que vous avez même un T-shirt.
Mais oui, c'est parce que j'ai acheté déjà les albums. Et la dernière fois que je suis allé les voir en spectacle, j'étais pas pour m'acheter un autre de leur disque, alors je leur ai acheté un chandail.
Ah oui, mais vous ne l'avez pas aujourd'hui.
Non, je ne le porte pas aujourd'hui.
La semaine prochaine, j'aimerais ça que vous le portiez.
Ça va me faire un grand plaisir.
Alors, on vous écoute dans les éphémérides.
Oui, aujourd'hui, nous sommes la journée internationale de l'aviation civile. Voilà. En 1770, un 7 décembre, Louis XV enregistre en lit de justice un édit de discipline qui provoque la démission de tout le Parlement de Paris. L'édit amorce donc une réforme radicale de la justice. En 1877, c'est la première démonstration du premier phonographe inventé par Thomas Edison. En 1941, toujours un 7 décembre, à Hawaï, l'aviation japonaise attaque la base de Pearl Harbor. Le raid fait plus de 2000 morts, mais les porte-avions, à ce moment, par chance, étaient ailleurs. Et les États-Unis gardent leur puissance navale pour leur entrée en guerre 27 mois après les autres démocraties. 1971, la sonde automatique soviétique Mars 3 se pose sur Mars et émet pendant 20 secondes avant de s'arrêter. 1978, le feu cause de graves dommages à la chapelle qui jouxte la basilique Notre-Dame Place d'Armes à Montréal.
Ah oui, la très belle basilique.
1993, le Pentagone admet que 204 essais de bombes atomiques ont été menés au Nevada sans être annoncés. En 1995, on en a parlé il y a quelque temps, à l'occasion de l'anniversaire du lancement de la sonde, larguée par le vaisseau américain Galilée près de Jupiter, une sonde transmet des données avant sa destruction dans son atmosphère. Et pour ce qui est des naissances, Mary Stuart, reine d'Écosse, est née un 7 décembre 1542 et décédée en 87, pas en 1900, mais en 1587. Le chanteur et poète américain Tom Waits,
ah oui,
est né un 7 décembre 1949.
Avec sa petite voix claire.
Avec sa petite... Ben, avez-vous déjà entendu son premier album?
J'imagine que c'est ça rendait moins.
Ah, c'est on oui. Pourrait... Oh, oui, tout à fait. Je vais essayer d'en trouver. Peut-être pas aujourd'hui, par contre. Mais je vais faire
un peu comme John Hallyday. Hier, c'était Maurice qui était là. Et puis, on écoutait du John Hallyday des années 60, une voix vraiment plus jeune,
c'est
avec
vrai.
Moins de fil d'araignée. Mais on aimait mieux la voix avec l'expérience.
Mais l'album Early Years...
De Tom Waits,
oui. Il est méconnaissable. C'est bon, mais là, c'est ça, une voix cristalline.
Ah, faudrait faire une espèce de jeu de comparaison un jour.
Oui. Et 1928, Noam Chomsky, philosophe et linguiste américain, est né un 7 décembre. Et pour ce qui est des... j'en ai noté deux décès du 7 décembre. 1990, le peintre québécois Jean-Paul Lemieux, qui était né, lui, en 1904. Et l'acteur québécois Jean Duceppe nous a quittés le 7 décembre 1990, lui qui était né en 1923.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, si vous saviez.
À la une de la presse, service de police de la ville de Montréal, Pichet suspendu, refusant de démissionner. Le chef Philippe Pichet a été suspendu hier en raison de son incapacité à corriger les problèmes de gestion interne minant le SPVM. Le directeur général de la SQ, Martin Prudhomme, devient administrateur provisoire pour un an. Et il y a la chronique d'Yves Boisvert qui accompagne cette nouvelle intitulée « Dans le sport comme dans la police ». Le petit Émile a 18 ans. À 2 ans, il est devenu le plus jeune patient en Amérique du Nord à attendre une greffe branchée à un cœur mécanique. Les méthodes musclées du Dr Barrette. Devenu ministre de la Santé, il a tenté d'abolir l'un des champs de pratique de trois anciens collègues radiologistes. La presse a enquêté sur ses façons de faire. Une administration provisoire, entre guillemets, pour le SPVM. Refusant de démissionner de son poste de chef de police de Montréal, Philippe Pichet a dû être suspendu hier après-midi en raison de son incapacité à corriger les profonds problèmes de gestion interne minant le service de police de la Ville de Montréal. Il sera remplacé par le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, désigné administrateur provisoire du corps policier pour un an. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a rendu public hier après-midi le rapport qu'il avait commandé en mars dernier à Maître Michel Bouchard sur la gestion interne du SPVM. Après l'analyse de la période de 2010 à aujourd'hui, son enquête administrative a relevé des irrégularités manifestes dans la conduite des enquêtes internes. Le rapport avance notamment que plusieurs allégations criminelles visant des policiers n'ont pas fait l'objet d'enquête ni été rapportés au directeur des poursuites criminelles et pénales comme l'impose pourtant la loi. L'enquête administrative met aussi en lumière des préoccupations importantes quant aux tensions et au climat de travail. Devant ces écueils, le ministre estime que la suspension du chef de la police de Montréal s'imposait, lui qui avait été incapable d'assainir le climat depuis son entrée en poste à l'été 2015. Philippe Pichet ne s'est pas adressé aux médias à la suite de sa suspension. « Je suis suspendu, je ne suis pas autorisé à faire de commentaires », a-t-il indiqué à la presse lors d'un bref échange. Officiellement, Martin Coiteux décidera s'il réintègre Philippe Pichet ou le destitue après avoir reçu un rapport de l'administrateur provisoire à la fin de son mandat. Le ministre a toutefois dit hier qu'il lui semblait peu probable que celui-ci retourne à la direction du SPVM. Il a d'ailleurs dit s'attendre à ce que la mairesse Valérie Plante lui propose un successeur d'ici la fin de l'année que doit durer l'administration provisoire. C'est le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, qui agira comme administrateur provisoire du SPVM jusqu'à la fin de 2018. Durant son mandat, il sera lui-même remplacé par Yves Morancier à la tête du corps policier provincial. Martin Coiteux dit avoir choisi un policier plutôt qu'un civil pour éviter un flottement à la tête du plus important corps policier municipal de la province. Les méthodes musclées du Dr Barrette. Quand il était radiologiste, Gaétan Barrette s'est retrouvé au cœur d'un conflit dévastateur à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Devenu ministre de la Santé, il a tenté d'abolir l'un des principaux champs de pratique de trois de ses anciens collègues. La presse a enquêté sur les méthodes musclées de celui qui a été maintes fois décrit comme un intimidateur au cours de sa carrière. 7 ans après avoir menacé de tout faire pour nuire au département de radiologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de détruire un à un ses anciens collègues, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a tenté d'abolir l'un des principaux champs d'expertise de trois radiologistes de cet hôpital. En novembre 2016, le ministère de la Santé dirigé par Gaétan Barrette a proposé de supprimer l'échographie cardiaque du champ de pratique des radiologistes afin de réserver cet acte médical aux cardiologues qu'il exécute désormais en grande majorité au Québec. La Fédération des médecins spécialistes du Québec a rejeté cette proposition qui aurait surtout touché trois anciens collègues du Dr Barrette à Maisonneuve-Rosemont. À eux seuls, ces trois médecins ont pratiqué plus de la moitié de toutes les échographies cardiaques encore réalisées par des radiologistes au Québec. À la fin des années 2000, un conflit dévastateur a opposé le Dr Barrette à l'ensemble de ses collègues du département de radiologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, exception faite de sa femme, la docteure Marie-Josée Berthiaume. Les tensions ont culminé en septembre 2009 quand la docteure Berthiaume a intenté une poursuite pour harcèlement et atteinte à la réputation contre les 12 radiologistes du département. L'affaire s'est retournée contre la docteure Berthiaume qui a non seulement été déboutée, mais condamnée à verser 375 000 $ à ses collègues pour avoir entrepris des procédures abusives à leur endroit. Le 3 septembre 2009, Gaétan Barrette a téléphoné au chef du département Robert Filion et menacé de tout faire pour nuire au département, d'attaquer personnellement tous les associés et de les détruire un à un, peu importe les dommages collatéraux que cela pourrait causer, lit-on dans la décision rendue en avril 2013 par la Cour supérieure. Le Dr Filion fait partie des trois radiologistes qui pratiquent des échographies cardiaques à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec Patricia Ugolini et Stéphane Carignan. Tous trois étaient visés dans la poursuite de la Dr Bertillaume. Ironiquement, le Dr Carignan a été recruté par Gaétan Barrette lui-même en 2000 pour ses connaissances approfondies en imagerie cardiaque. Le style Rimbaud, Gaétan Barrette n'a pas toujours prêché la couverture publique des frais d'échographie pratiqués en clinique privée. Avant qu'il ne soit ministre de la Santé du Québec, cette perspective le faisait même sortir de ses gonds. La scène se passe par une belle journée de mai 2013 sur la terrasse du chic restaurant Latini au centre-ville de Montréal. Normand Laberge, directeur général de l'Association médicale du Québec, avait été invité à un lunch par le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Gaétan Barrette. Lorsqu'il s'est présenté au restaurant, M. Laberge avait en main le plus récent exemplaire de Santé Inc., le magazine de son association. Du fond de la terrasse, le Dr Barrette l'a apostrophé. « Chris, ça c'est un torchon. Qu'est-ce que tu fais avec ça? » C'était des coups de poing sur la table, des « Chris, vous allez arrêter. » C'était gênant, on était en public, il y avait des touristes aux tables autour, dit Normand Laberge à propos de Gaétan Barrette. En tant que ministre, Gaétan Barrette applique désormais ses méthodes aux acteurs du réseau de la santé, constate M. Laberge. Quand il traite les bureaucrates d'incompétents, quand il traite les médecins de paresseux, il cause un tort réel. Il a cette approche que l'on n'avait jamais vue de la part d'un ministre de la Santé, cette attitude quasi-dictatoriale, dit Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. La boisson alcoolisée Four Loko, très populaire chez les jeunes, est retirée des tablettes des épiceries et des dépanneurs du Québec car elle ne contient pas de l'alcool issu de la fermentation du malt comme on le prétend sur le produit. Au terme de plusieurs visites d'inspection menées en octobre à l'entreprise Embouteillage Solar située à Terrebonne, la Régie des alcools, des courses et des jeux, RAC, a découvert que la fabrication de 34 boissons alcoolisées dont le Four Loko n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, a indiqué à la presse la porte-parole de l'organisme de régulation, Maître Joyce Tremblay. Au Québec, la boisson américaine Four Loko est commercialisée par les breuvages Blue Spike, mais fabriquée par Embouteillage Solar. Des prélèvements faits sur les produits puis envoyés à la Société des alcools du Québec, aux fins d'analyse, ont révélé que l'alcool se trouvant dans les boissons ne provenait pas de la fermentation de la matière première, mais bien d'un ajout direct d'alcool, a expliqué Maître Tremblay de la RACJ, R-A-C-J, donc la Régie des alcools, des courses et des jeux. Quartier construit sur un ancien dépotoir de pièces automobiles. La ville de Terrebonne vient de transmettre à l'unité permanente anticorruption le dossier Brady, estimant que le développement d'un quartier résidentiel sur un ancien dépotoir de pièces automobiles comporte tous les éléments pour justifier une enquête criminelle, a appris la presse. La nouvelle administration du maire Marc-André Plante a pris cette décision hier lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif. Tous les documents détenus par la municipalité concernant ce dossier et qui pourraient aider la police, ont été remis à l'UPAC. Au-delà de la préoccupation environnementale, le dossier Brady soulève des questions quant aux transactions ayant mené à la construction de ce quartier résidentiel. Jets de lumière pour ne pas oublier. Une courte et sobre cérémonie s'est déroulée hier au sommet du Mont-Royal en l'honneur des 14 victimes de la tuerie de Polytechnique disparue il y a 28 ans. Un à un, les 14 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel de Montréal, de grands jets de lumière pour percer l'obscurité qui avait déjà gagné le belvédère du Mont-Royal sur le coup de 17 heures. À la même heure, il y a 28 ans, 14 femmes étaient tuées par Marc Lépine qui a semé la terreur à l'école polytechnique le 6 décembre 1989. Le nom de chacune des femmes, 13 étudiantes et une employée, a été prononcé à mesure que s'illuminait la création lumineuse signée Moment Factory. Amis, familles et survivantes du drame ont convergé vers le sommet du Mont-Royal pour participer à la courte et sobre cérémonie de commémoration. C'est important de se rappeler cette tragédie qui a pris la vie à 14 jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Ça, il faut s'en rappeler, a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui faisait partie des dignitaires aux côtés de la conjointe du premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire. Fairy tales can come true. To you, if you're young at heart, for it's hard you will find to be narrow of mind and be young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. Love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? And as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, think of all you'll derive out of being alive. And this is the best part. You have a head start if you are among the very young at heart.
C'était Tom Waits et sa chanson Young at Heart.
En une du Devoir, la mairesse et aussi le ministre de la Sécurité publique en photo, accompagné de la mairesse de Montréal, le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, a expliqué que le rapport d'enquête sur le SPVM ne lui laissait guère d'autre choix que de suspendre son directeur, Philippe Pichet. L'itinérance tapit dans l'ombre. Les femmes sans domicile fixe cachent leur situation faute de ressources adaptées, selon une recherche. Le Trident mise à l'amende toute une scène pour une cigarette. La liberté artistique s'arrête là où le droit à un environnement sans fumée commence. Il y a une photo d'une cigarette écrasée. Le Trident, dis-je bien, a dû acquitter une amende de 682 $ après la plainte d'un spectateur disant avoir été incommodé par la fumée d'une cigarette que grillait une comédienne sur scène. La personnalité de l'année de Time, le magazine arrête son choix sur les briseuses de silence et dans la foulée du mouvement MeToo ou Moi aussi. Et Jérusalem, capitale d'Israël, Donald Trump soulève une vague de réprobation. Lire aussi une invitation à la spoliation, l'éditorial de Guy Taillefer. Philippe Pichet suspendu, le directeur de la SQ aux commandes du SPVM, Martin Prudhomme aura un an pour remettre le service de police dans le droit chemin. Climat malsain, enquête interne bâclée, procédure administrative bafouée et guerre de clans. Le rapport Bouchard étale de graves lacunes au sein du service de police de la Ville de Montréal, ce qui a amené le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, à suspendre le chef Philippe Pichet, jugé incapable de redresser la situation. Le ministre a confié au directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, la mission de remettre le SPVM sur les rails. Les femmes brillent par leur absence dans les politiques et plans de lutte contre l'itinérance du Québec, de même que dans les ressources d'aide mixtes, ce qui les stigmatise étant donné leur réalité distincte. C'est le principal constat que fait la recherche « Rendre visible l'itinérance au féminin », menée pendant 2 ans dans 7 régions de la province, dont les résultats seront présentés jeudi et vendredi dans le cadre d'un colloque à Montréal. Contrairement aux hommes, les femmes vivent leur itinérance de façon cachée. La plupart d'entre elles vont tout faire pour ne pas se rendre dans la rue. Elles veulent que leur situation reste invisible car elles sont soucieuses. Elles se débrouillent donc souvent seules, a constaté la directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal, Céline Bello, qui a dirigé les travaux avec une équipe de chercheurs et un comité de reconnaissance formé d'une 20aine de femmes vivant ou ayant vécu l'itinérance. Si les femmes itinérantes sont soucieuses de cacher leur état, c'est parce qu'elles éprouvent plusieurs craintes. Tristement, elles ont pratiquement toutes été victimes de sévices de nature physique, psychologique ou sexuelle, et ce, parfois depuis l'enfance. Parfois, les femmes ne fréquentent pas une ressource en particulier parce qu'un homme qui les a abusées s'y trouve, donne comme exemple Mme Bello. Celles qui sont mères taisent leur situation de peur de perdre la garde de leur enfant. À Québec, les cabinets des ministères de la Condition féminine et de la Santé publique ont tous deux dit au Devoir qu'il souhaitait prendre connaissance des résultats de la recherche avant de se prononcer. Combien y a-t-il de femmes itinérantes? Difficile de chiffrer le nombre de femmes itinérantes au Québec étant donné leur invisibilité. Selon le calcul fait par la Ville de Montréal en 2015, les femmes comptent pour 24 % de la population itinérante. La motion invitant tous les commerçants à accueillir leurs clients avec un bonjour bien senti qui a été adoptée il y a une semaine par tous les élus de l'Assemblée nationale n'y changera rien. À Bonjour Aïe, la ministre Kathleen Vail continuera de répondre Bonjour Aïe y voyant un signe de respect à l'égard de son interlocuteur. La ministre responsable des relations avec les Québécois de langue anglaise a avoué mardi que la motion a provoqué la colère de la communauté anglophone. Eux, ils ont de la misère à suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils pensaient qu'on avait légiféré pour bannir l'anglais. C'était extrême, a-t-il relaté dans une mêlée de presse. La députée de Notre-Dame-de-Grâce a été presque instantanément submergée d'appels téléphoniques de personnes, n'arrivant pas à croire que le Parti libéral du Québec ait appuyé jeudi dernier une motion du Parti québécois écorchant la formule de politesse bilingue « Bonjour, aïe » qui est à la mode, notamment dans le centre-ville de Montréal. Le président du Québec Community Groups Network, Jim Shea, a lui préféré écrire au premier ministre Philippe Couillard et au chef de l'opposition officielle Jean-François Lisée. À l'instar de Mme Veil, le président du Québec Community Groups Network promet de continuer à saluer ses interlocuteurs au moyen d'un « bonjour, aïe ». On ne souhaite pas pour autant que tout le monde nous parle en anglais, précise-t-il. Le magazine Time a décerné mercredi le titre de personnalité de l'année aux victimes qui ont brisé le silence face au harcèlement sexuel déclenchant un torrent d'accusations contre des hommes de pouvoir à travers le monde. Le magazine a mis à sa une l'actrice Ashley Judd, la chanteuse Taylor Swift et l'ex-employée d'Uber, Susan Fowler, parmi les premières à dénoncer des agressions sexuelles par des hommes de pouvoir. Parmi les stars déchues des dernières semaines figurent des vedettes comme l'acteur Kevin Spacey, les journalistes Charlie Rose ou Matt Lauer, le directeur artistique de Disney, John Lasseter, ainsi que des ténors de la politique américaine, dont le doyen de la Chambre des représentants, John Conyers, et le sénateur Al Franken. Et pour finir sur cette nouvelle du Time, les actions galvanisantes des femmes de notre couverture avec celles de centaines d'autres et beaucoup d'hommes également ont déclenché un des changements les plus rapides de notre culture depuis les années 1960, dit Edward Felsenthal, rédacteur en chef de Time. Restez avec nous, l'émission Le quotidien des quotidiens est de retour après la pause et la chanson.
C'est au tour de la grosse Raymonde. Elle a des sanglots qui coupent le respire. Elle a des sanglots qui coupent le respire.
J'écoute Raymonde qui pleure et qui mouche. À 45 ans, son homme est parti. Je ne trouve rien qui calme ou la touche. J'écoute le monde, je pleure avec lui. J'écoute le monde, je pleure avec lui.
Il n'y a pas d'âge pour quelqu'un qu'on blesse, et pas de sagesse face au désespoir. Pendant 18 ans, j'ai été sa maîtresse.
Elle reste fidèle, il veut essayer de refaire sa vie. Elle pense à l'amour laissé derrière elle. Il va voir ailleurs, elle en meurt ici.
Il va voir ailleurs, elle en meurt ici. Moi je n'y peux rien. Si tout va de travers, qui a fait le monde sans en prendre soin?
Pleurons nos amours, c'est bon pour les nerfs. La saison des pluies fait pousser le foin. Mais l'espoir me vient de la grosse Raymonde. D'un coup de sacoche, elle remonte son sein. Je m'en trouverai un autre, c'est pas la fin du monde. À chacun son tour de croire aux humains. À chacun son tour de croire aux humains.
Tiré de l'album Les Duos Improbables, le deuxième, le volume numéro 2, c'était Clémence Desrochers et Fred Pellerin, accompagnés de Steve Normandin, qui nous chantait la chanson La Grosse Raymonde.
En une du Journal de Montréal d'aujourd'hui, électrochoc au SPVM, un vert débarque chez les Bleus, Philippe Pichet à droite est suspendu avec solde et le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, à gauche, prend la tête de la police de Montréal. Alors, on voit ces deux hommes photographiés, tablettés à 294 666 $ par année. Et toujours en une, à l'intérieur, 136 pages d'idées cadeaux, spectacles sorties techno pour toute la famille, pour tous les budgets. Le rapport accablant en 10 points. Malaise profond, les pratiques d'enquête adoptées par la Division des affaires internes du SPVM ont besoin d'être revues en profondeur. Le rapport de Michel Bouchard affirme que le malaise est profond et la confiance du personnel civil et policier à l'égard de la direction à un niveau extrêmement préoccupant. Climat de suspicion. Un autre point, un climat de tension et de suspicion s'est établi au sein du SPVM. Il y a plusieurs frictions entre le monde de la gendarmerie et celui des enquêtes. Les deux groupes sont constamment en compétition, notamment lors de courses à la chefferie, alors que chacun des groupes voudrait que le prochain directeur provienne de leur monde. Système de promotion déficient, pas de volonté de changer, enquête bâclée, traitement préférentiel, pas de formation, revoir la loi sur la police, important défi, et dixième point, manque de contrôle. Le rapport souligne le manque de contrôle et de supervision de la part des dirigeants. L'absence de supervision des gestionnaires pouvait se transformer en un contrôle inapproprié de certains des dirigeants de la Division des affaires internes à l'égard d'une enquête confiée à un de leurs subalternes. Il sera plus aisé que jamais de détecter chez un patient les premiers signes de l'Alzheimer grâce à une application mobile développée par une équipe alliant médecine et mathématiques à Québec. Le docteur Patrick Bernier explique avoir eu l'idée il y a 6 ans d'appliquer à la gériatrie le concept des courbes de croissance utilisées depuis longtemps en pédiatrie. À sa grande surprise, aucune solution vraiment adaptée n'était disponible. Quand on vieillit, on perd tous un peu de mémoire et de cognition, c'est normal. Mais quelle est la différence entre le normal et le pathologique? C'est l'outil que nous avons fini par faire, commente l'omnipraticien qui a mis 6 ans sans aucune forme de subvention, pour développer COCO, Q-U-O-C-O, avec ses collègues. L'application disponible pour les téléphones et les tablettes est destinée au personnel médical qui peut ainsi situer ses patients par rapport à des valeurs moyennes et suivre leur évolution. Le programme détecte avec succès les symptômes associés à la démence 80% du temps, souligne le physicien Christian Gourdeau, Le résultat ainsi obtenu ne constitue pas en soi un diagnostic, mais il lève un flag, entre guillemets, illustre-t-il. Le président Trump, isolé sur la scène internationale dans une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs, Donald Trump a reconnu hier Jérusalem comme capitale d'Israël, suscitant la colère des Palestiniens et une vague de réprobation bien au-delà du Proche-Orient. Avec cette décision qui marquera son mandat, le 45e président des États-Unis met fin à des décennies d'ambiguïté américaine et tient l'une de ses promesses emblématiques de campagne. Mais il s'isole sur la scène internationale et prend le risque de saper les timides espoirs de reprise des négociations et de provoquer une poussée de fièvre dans la région. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé des choix déplorables, jugeant que Washington ne pouvait plus jouer son rôle historique de médiateur de paix avec les Israéliens. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a de son côté jugé que cette annonce ouvrait les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Québec solidaire dénonce des manœuvres en catimini à l'Assemblée nationale pour augmenter le salaire des élus afin de les compenser pour la future imposition par le fédéral de leurs allocations de dépenses. Notre bureau parlementaire a appris que QS, Québec solidaire, a été contacté mardi par le vice-président de l'Assemblée nationale, François Ouimet, qui soumettait une proposition au nom du Comité sur les allocations du bureau de l'Assemblée nationale. Il souhaitait une adoption rapide d'un projet de loi, explique Mme Massé en entrevue. On ne trouvait pas acceptable que le processus se fasse aussi rapidement avant les fêtes, en catimini, la dernière journée avant la suspension des travaux, a-t-elle déploré. Selon Mme Massé, M. Ouimet cherchait l'accord des trois parlementaires du parti de gauche. La date limite pour le dépôt d'une pièce législative qui peut être adoptée d'ici la fin de la session est dépassée. Il aurait donc fallu un appui unanime pour qu'un projet de loi soit déposé, puis adopté demain à toute vapeur, sans débat. Québec solidaire a refusé net. Bien triste nouvelle, le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominique Leblanc, a annoncé hier qu'il était atteint de leucémie lymphoïde chronique. Pendant mon examen médical annuel le printemps dernier, mon médecin de famille a trouvé de façon fortuite une anomalie avec le décompte de mes globules blancs. Elle m'a tout de suite référé à un spécialiste, a mentionné le ministre dans un communiqué. Après plusieurs tests, il a reçu le diagnostic de leucémie. Il s'agit d'une condition contrôlable et d'un type de leucémie les plus courants chez l'adulte, a indiqué le spécialiste qui suit M. Leblanc, Dr. Nicolas Finn. Le ministre commencera des traitements dès la semaine prochaine, et entend bien continuer à servir en tant que député et ministre, y compris durant les traitements, assurer l'élu du Nouveau-Brunswick. Le prix du lait pourrait augmenter. Le consommateur pourrait payer jusqu'à 12,5 cents de plus les 2 litres de lait 2 % en février prochain si la demande des laiteries d'augmenter le prix est acceptée. Depuis 2016, le prix du lait est resté stable, variant de 3,30 $ à 3,60 $ pour 2 litres de 2 %. Le Conseil des industriels laitiers du Québec, qui représente des laiteries et fromageries, a demandé cette augmentation en se basant sur trois critères, la hausse de leurs propres coûts, la capacité de payer des consommateurs et l'indice des prix à la consommation, explique Charles Langlois, président-directeur général du Conseil. Des maisons de milliardaires flambent à Los Angeles. Bel Air, le quartier huppé de Los Angeles, a été touché hier par l'incendie dévastateur qui fait rage depuis lundi dans la région. Des maisons de milliardaires n'ont pas échappé à l'élément destructeur. Plusieurs palaces, comme celui sur la photo qu'on peut voir dans le Journal de Montréal, ainsi que la résidence cossue de Rupert Murdoch, un magnat des médias, ont été réduits en cendres. La populaire artiste Beyoncé demeure aussi dans le secteur. Depuis lundi, plus de 150 maisons ont été détruites par l'incendie nommé Thomas. Le secret de la longévité est de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. À 100 ans, Révolu, Marie-Louise Wirth, W-I-R-T-H, Wirth, Mathieu? Marie-Louise Wirth, W-I-R-T-H, vous êtes bon, vous, dans les prononciations? Wirth, d'accord. Alors, Marie-Louise Wirth continue d'officier derrière son comptoir à Isbergues, dans le nord de la France, dans le bar où elle a commencé à travailler à 14 ans. « J'ai passé ma vie ici et je suis à mon compte depuis 1954, date du décès de mon père », explique cette femme aux yeux bleus, habillée avec coquetterie et au caractère bien trempé. Née à Saint-Nazaire le 23 novembre 1917 d'un père travaillant au chantier naval, la jeune Marie-Lou est arrivée à 2 ans dans le Nord. Avant son certificat d'études, elle aidait ses parents à servir les clients. Alors, on a vu cette femme sur les réseaux sociaux. Et puis là, ça se retrouve dans le Journal de Montréal en page 21.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo. Col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei. E con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Gian Maria Testa, c'était Danturo, la tasca di un qualunque mattino.
Les journaux régionaux maintenant, près de 350 étudiants de la Cité abandonnent leur session. C'est dans le droit sous la plume de Daniel Leblanc. Un total de 341 étudiants de la cité se sont prévalus du droit au remboursement complet des frais de scolarité pour leur session automnale. Ceux-ci ont déserté les salles de classe de l'établissement collégial à la suite de la grève des professeurs. Les cours ont repris le 21 novembre dernier à l'institution d'Ottawa et dans les 23 autres collèges publics ontariens après l'adoption par le gouvernement d'une loi spéciale forçant le retour au travail du personnel scolaire qui a débrayé durant 5 semaines. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, Deb Matthews, avait annoncé au terme du conflit que chaque collège devait compenser les étudiants avec une indemnité maximale de 500 $ s'ils choisissaient de poursuivre leurs études. De plus, ceux qui optaient pour un abandon de leur semestre disposaient d'un délai de 2 semaines pour obtenir un remboursement complet de leurs droits de scolarité. Le collège soutient qu'il est prématuré de chiffrer avec exactitude les pertes financières que la situation engendrera. Ce sera assurément des centaines de milliers de dollars. Nous devrions avoir des chiffres à la fin de l'année fiscale, indique la gestionnaire des communications, Pascal Momini. Rappelons que le calendrier du semestre d'automne a été modifié et que les étudiants poursuivront leurs cours jusqu'au 22 décembre, une semaine plus tard qu'initialement prévu. La session se poursuivra par la suite au retour des fêtes pour se terminer le 26 janvier. Mis à part l'annulation de la semaine d'études en février, le calendrier du semestre d'hiver demeure inchangé. Du côté du Collège algonquin, la porte-parole Ruth Donnelly affirme que le bureau du registraire n'a toujours pas finalisé la compilation des données. Dans la tribune, Tommy Brochu, le bateau solaire Hyperion pourrait tout rafler. La 23e exposition de génie méga-génial de l'Université de Sherbrooke revêt un caractère particulier cette année. Parmi les projets présentés, il y a Hyperion, lequel pourrait apporter une belle visibilité à l'Université de Sherbrooke. Le coordonnateur du projet, Vincent Côté, ne vise rien de moins que la première place du concours Solar Splash auquel participera Hyperion en 2018. Le projet Hyperion consiste à construire un bateau solaire. Les étudiants de dernière année en génie ont fabriqué ce bateau de toutes pièces, ce qui s'est avéré être un long processus pour les membres de l'équipe. On a commencé il y a 2 ans, indique Vincent Côté. Comme on a tout conçu nous-mêmes, on pense qu'on va être capable de jouer directement sur les spécifications de la compétition. Nous sommes exactement là où l'on devrait être. Les autres équipes achètent des composants, tandis que nous, on conçoit tout, poursuit-il. Le projet de génie mécanique et de génie électrique de l'Université de Sherbrooke sera le seul représentant canadien de la compétition Solar Splash qui aura lieu au mois de juin prochain en Ohio. Nous sommes un groupe de 18 qui travaillent tous pour le même but. On veut gagner la compétition et on veut battre les records. La compétition comporte 2 épreuves, le sprint et l'endurance, explique Vincent Côté. Le bateau qui atteint 70 km/h a coûté environ 70 000 $. On est allé chercher des fournisseurs partout en Estrie, mentionne M. Côté. La compétition Solar Splash réunit plusieurs universités de l'Amérique du Nord. Habituellement, lorsqu'on va faire les compétitions internationales, c'est pour gagner, assure le conseiller en communication à l'Université de Sherbrooke. Outre le projet Hyperion, 32 autres projets sont présentés au public lors de l'exposition Méga Génial. Dans le Nouvelliste, Guy Veillette, un nouveau trio au Centre Bell. Tout près d'un mois après l'annonce de la vente de la microbrasserie Le Trou du Diable à Molson Coors, un premier trio originaire de Shawinigan fera son apparition au Centre Bell jeudi soir, ce soir, dans le cadre du match entre les Flames de Calgary et le Canadien. Les amateurs de houblon pourront déguster la saison du tracteur, la pitoune ou les 4 surfeurs de l'Apocalypso, trois bières brassées sur l'avenue de la station qui s'introduiront dans le temple du hockey pour la première fois. Lors de la confirmation de la transaction le 9 novembre, tous les yeux s'étaient tournés vers le Centre Bell comme occasion d'affaires inouïe pour le trou du diable. C'était venu à l'esprit de tout le monde, sourit Isaac Tremblay, responsable du développement des affaires pour les produits de la microbrasserie. Nous travaillons là-dessus depuis l'annonce. Pour nous, cette nouvelle représente le coup d'envoi des possibilités à venir. M. Tremblay spécifie qu'il s'agira d'une première incursion d'un produit de microbrasserie au Centre Bell. Non seulement les amateurs de hockey, mais ceux qui se présenteront à des spectacles artistiques et à d'autres événements sportifs pourront également faire cette découverte. Pour cette grande première, 16 barils de 30 litres chacun ont été livrés au Centre Bell mercredi. Une délégation du Trou du Diable se déplacera évidemment pour l'occasion et M. Tremblay souhaite avoir l'occasion de trinquer avec le président du Canadien, Geoff Molson. Dans le quotidien, attention à tout ce qui se dit, avertit Alain Vadeboncœur. De passage dans la région pour faire la promotion de son nouveau livre « Des ordonnances », l'urgentologue Alain Vadeboncœur en a profité pour présenter une conférence grand public mercredi soir au Montagnet. Dans un style humoristique accrocheur, l'auteur a échangé sur différents sujets de la santé avec ses invités. D'ailleurs, ils étaient environ 70 à avoir répondu à l'appel. Se disant confortable à l'idée de confronter les gens avec ce qu'ils font, voient ou entendent pour prendre soin d'eux, Alain Vadeboncœur a abordé plusieurs sujets qui touchent le quotidien de tout un chacun. Sans déboulonner les mythes du domaine de la santé, il a rappelé que tout n'est pas toujours aussi grave que certaines recherches tendent à prouver. Quand il y a une recherche sur un sujet, il y en a toujours une autre qui va nous permettre de lire ce qu'on veut lire, a raconté M. Vadeboncœur. Il a aussi abordé le sujet des super-aliments, citant par exemple le curcuma, la betterave et même le chocolat noir. Ce n'est pas clair qu'il faut miser là-dessus, mais mangez-en si ça vous fait du bien, a simplement recommandé Alain Vadeboncœur, avant de parler du super-aliment ultime, le bleuet qui pousse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, il faut en manger autant que possible, a-t-il ajouté. M. Vadeboncœur a également mis en garde l'auditoire face aux nombreux examens, affirmant qu'un test doit servir à trancher une incertitude. Passer des tests de façon régulière sans raison, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas malade, avertit celui qui est le chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Alain Vadeboncœur a partagé un moment tragique avec la population régionale, racontant le moment où il a bien failli mourir de rire. C'était à la fin de la dernière année lorsqu'il écoutait le Bye Bye 2016. Alors qu'il se remettait d'une pneumonie, un numéro l'a fait éclater de rire. C'est à ce moment qu'il a appris que tousser et rire en même temps ne font pas bon ménage. « J'ai fini par arrêter de rire et j'ai retrouvé mes esprits », a-t-il confié devant une foule amusée. Pour ceux qui l'ignoraient, Alain Vadeboncœur est le fils de l'écrivain Pierre, mort en 2010. La page couverture du livre d'Alain contient d'ailleurs un clin d'œil à son père, reproduisant le S de l'œuvre Indépendance, publié en 1972 par Pierre Vadeboncœur. C'est dans le soleil les dérives sectaires sous l'œil de députés. Des députés de l'Assemblée nationale se préparent à former un groupe de travail pour se pencher sur les phénomènes des sectes ou des groupes à dérive sectaire. La députée péquiste Agnès Maltais et le libéral Pierre Ride réfléchissent très sérieusement à cette possibilité. D'autres élus se montrent aussi intéressés. Voilà, c'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 7 décembre 2017. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve dans quelques minutes à l'émission Les Paractualités. Et si vous nous écoutez sur le site web, je vous dis à bientôt. Et merci aussi à Mathieu Tessier. Pardon? Oh non, c'est vrai, il nous reste une demi-heure. Hey, je suis vraiment trop pressée. Merci Mathieu de me ramener à l'ordre. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? À 11h, parce qu'on a changé un petit peu la feuille de route, hein? Alors ça devient mêlant. À 11h, il y a les actualités culturelles et puis un petit peu plus tard, les sujets libres. Je vais vous parler, entre autres choses, de sport et de restaurants.
Étoile, étoile, sur nos têtes toutes pâles, quand s'éteint le jour, dors bien mon amour. Étoile, étoile, le beau soir qui tend ses voiles. Vienne le sommeil, ne crains rien, je veille. J'entends gémir les arbres étourdis par le vent, et j'entends ta beauté qui respire. Quand l'étoile frissonne, quand voguent les navires, nous voici tous les deux dans l'espace vivant. Étoile, étoile, sur nos têtes toutes pâles, quand s'éteint le jour, dors bien. Voici venir les anges en léger bataillon. Ils te protégeront, toi qui es sans défense. Moi j'inventerai pour toi d'autres constellations. La chaise, le couteau, le condor, l'espérance.
De son album Sur la Terre, c'était Pierre Flynn qui nous chantait Étoile, étoile.
Et parlant d'étoiles, voici une superstar. Imaginez-vous bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de papiers, d'articles écrits à propos du départ de Johnny Hallyday. Et dans la presse, il y a La Presse à Paris, un pays en deuil, un article de Jean-Christophe Laurence, séisme, déflagration, tremblement de terre, la France est sous le choc à la suite de la mort de Johnny Hallyday. Tout le monde s'y attendait, c'est vrai, le chanteur était malade. Une semaine plus tôt, il était encore aux soins intensifs. Mais son départ semble laisser tout un pays orphelin, comme s'il venait de perdre d'un seul coup son père, son oncle et son meilleur pote. Toute la journée hier, les témoignages se sont multipliés. Pendant que les médias, même les plus sérieux, passaient en boucle des émissions spéciales sur le Elvis français, de nombreuses personnalités du monde des arts et de la politique lui rendaient hommage sur la place publique. Chacun y est allé de son mot, de son analyse ou de son anecdote, de la chanteuse Mireille Mathieu au président Emmanuel Macron, l'un des premiers à s'exprimer en pleine nuit, peu de temps après l'annonce de sa mort. Signe d'une disparition majeure, l'Assemblée nationale lui a même consacré une ovation de manière tout à fait impromptue. L'émotion était aussi palpable à Marne-la-Coquette, banlieue ultra-cossue de Paris, où habitait Johnny Hallyday. Devant les grilles de son manoir, la Savannah, très bien gardée par la police, des fans s'étaient rassemblés spontanément pour lui adresser un ultime salut. Certains se confiaient aux médias. D'autres chantaient ou pleuraient en silence. Tous étaient venus par loyauté pour remercier celui qui les avait accompagnés pendant 20, 40 ou 50 ans. « Je l'aime depuis 1966 et ce matin, quand j'ai entendu la nouvelle à la radio, j'ai hurlé », a confié Françoise Dordain, 67 ans, les yeux rougis, qui a fait plus de 100 km avec son mari Bernard pour être proche de son idole. Dire que Françoise et Bernard sont des fans. En 1972, elle a sauté sur scène pour embrasser Johnny. La scène a été immortalisée par un photographe et le cliché se trouve désormais dans un album photo spécialement consacré au chanteur que le couple a placé chez lui tout près d'un buste le représentant. Alors forcément, disent-ils, il fallait qu'on vienne aujourd'hui. On n'a pas hésité une seconde. Ils ne sont pas les seuls. Sébastien Burel, 42 ans, venait de faire 600 km en train depuis Strasbourg avec son frère, son fils et ses neveux, pour rendre hommage à celui qui, dit-il, a toujours fait partie de la trame sonore familiale. On ne le connaissait pas personnellement, mais c'est bizarre, c'est comme si on perdait un membre du clan. Mon père chantait ses chansons, je l'entends depuis que je suis haut comme ça. Alors bien sûr, j'ai pleuré, même si c'était un étranger, a-t-il dit, l'air pourtant invulnérable dans son perfecto noir. Moi, pas une larme, j'ai passé l'âge, a lancé Olivier, 63 ans, en triturant la croix de Johnny accrochée à son cou. Mais il admet que la disparition du chanteur laisse un vide énorme. Pour lui, d'abord, qui le suivait depuis l'âge de 10 ans et qui l'a vu au moins 100 fois en concert. Mais aussi pour la France, à qui le chanteur a tant donné. Donner quoi? De ce côté, les réponses varient. Mais tout le monde semble s'entendre sur ceci. Johnny était d'abord une voix, puis un charisme, puis une bête de scène. Quand il donnait un concert, il se passait quelque chose, a résumé Marie Bourdeau, jeune soixantaine, venue se recueillir devant la Savannah. C'était une espèce de communion. Il donnait beaucoup de sa personne. Et puis, bien sûr, il y a la nostalgie. Pour plusieurs, Johnny reste associé à l'époque bénie des années 60, celle d'une France qui se décrispe et bascule tranquillement dans la modernité. Il est toute notre jeunesse, a résumé tout simplement Raymond Meyer, un autre quidam venu pleurer devant la Savannah. Vu de l'étranger où il n'a jamais vraiment eu de succès, cet amour inconditionnel peut étonner. Mais ce serait oublier le personnage, modèle de persistance et de transcendance. Né Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday a en effet survécu aux modes, aux caricatures et au mépris de l'intelligentsia pour devenir une institution de plein droit. Sa route vers la crédibilité artistique n'a pas été facile. On le trouvait trop bof, pas bof, mais beauf dans le sens de beau-frère, trop kitsch, trop américain et finalement sans grande personnalité. Mais à la longue, c'est lui qui a gagné. Plus qu'une simple copie d'Elvis, Johnny s'est réinventé en chanteur français respectable, pour qui plusieurs auteurs de qualité, de Michel Berger à M, en passant par Miossec, finiront d'ailleurs par écrire. Cette évolution est à l'image du roman national. Incarnation de la jeunesse française des années 60, Johnny s'est transformé au fil du temps pour épouser les changements culturels de son époque, a écrit hier le sociologue Jean-Louis Fabiani dans Le Monde. Le Monde, le journal. Ce talent, si l'on peut dire, lui aura permis de rallier des gens de toutes les classes, de toutes les générations et de toutes les allégeances politiques. Raison en soi pour mériter un deuil national, car sur lui, au moins, tous les Français étaient d'accord. Pour finir, petite pensée pour l'écrivain Jean d'Ormesson, mort 24 heures plus tôt. Le pauvre académicien n'aura eu qu'une courte fenêtre de pérennité. Hier, dans les médias, plus personne ne parlait de lui. L'émission que lui préparait la chaîne France 2 a même été reportée pour une programmation spéciale Johnny, animée par Michel Drucker. C'est tout dire. Michel Drucker, sur les réseaux sociaux, s'est effondré en larmes en parlant de Johnny Hallyday. Alors, c'est un article de Jean-Christophe Laurence en direct de Paris. Et dans le Journal de Montréal, en exclusivité, on apprend que Gérard Depardieu s'apprête à nous rendre visite. L'acteur français sera de passage à Montréal et à Québec en mai prochain pour présenter son spectacle « Depardieu chante Barbara », un tour de chant en hommage à la célèbre dame en noir. Alors, ça faisait un an qu'on essayait de séduire Gérard Depardieu pour qu'il vienne en spectacle au Québec. Le plus long, ça a été d'entrer en contact avec lui, explique le producteur montréalais Patrick Lévy. Gérard Depardieu posera d'abord ses valises du côté de la vieille capitale le 22 mai prochain pour un concert au Grand Théâtre de Québec. Il se produira ensuite à l'Olympia de Montréal les deux jours suivants, soit les 23 et 24 mai. Il a été un ami intime, très proche de Barbara. Il la connaissait très bien, alors il ne fait pas que chanter différentes chansons. Il la raconte à travers des anecdotes et des histoires qu'ils ont vécues ensemble, ajoute le producteur. Pardon, les hommages à la chanteuse Barbara ont abondé dans les derniers mois avec des artistes tels que Patrick Bruel et Alexandre Tarot, pianiste, présentant albums et concerts pour souligner le 20e anniversaire du décès de Barbara. Gérard Depardieu sera accompagné sur scène de Gérard Daguerre, pianiste ayant accompagné Barbara durant 17 années. Le spectacle Depardieu chante Barbara sera donc présenté les 22, 23 et 24 mai au Québec et les billets seront mis en vente samedi. Face au bruit de papier froissé et de grignotage qui incommode certains de ses spectateurs et surtout ses acteurs, la chaîne de théâtre londonienne Nimax Theatres a décidé d'agir en bannissant les paquets de croustilles ou les bonbons les plus bruyants. Nous essayons de trouver l'équilibre entre ceux qui ont besoin de manger des sucreries et des snacks pendant les représentations et ceux que le bruit fait par les paquets dérange ainsi que les acteurs, a expliqué Nika Burns, directrice de Nimax Theatres. Madame Burns a souligné que la question préoccupait de nombreux lieux de spectacle, d'autant que les revenus tirés de la vente d'Anka constituent une part non négligeable de leur budget. En revanche, il n'est pas question de laisser les gens entrer avec leurs plats emportés comme tentent certains, a-t-elle ajouté. Nous demandons très poliment aux gens de manger leur déjeuner ou dîner dehors. Le prix en art visuel Giverny Capital, qui vient avec une bourse de 10 000 $, a été remis pour la sixième fois. La lauréate Sophie Jaudoin est une artiste multidisciplinaire pour qui le dessin, l'image et les mots demeurent les principales voies. Attribué tous les deux ans, le prix Giverny a été créé par le collectionneur François Rochon afin d'encourager l'excellence, l'originalité et la force créatrice de l'art actuel d'ici. Le jury tout féminin qui a choisi Sophie Jaudoin a tenu à souligner l'engagement d'une artiste sans compromis, capable d'inventer des récits qui font du visiteur un lecteur aux aguets.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. N'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Et voilà Barbara et sa chanson « Si la photo est bonne ».
Vers Pyeongchang 2018, ski acrobatique, un retour décisif, c'est un article de Sophie Allard dans la presse. La fébrilité est palpable chez les skieurs de bosse canadiens qui s'élanceront samedi sur la piste de Ruka en Finlande à l'occasion de la première Coupe du monde de cette année olympique. Ils voudront assurément faire mieux que leurs résultats coussi-coussa de l'an dernier. Pour Maxime Dufour-Lapointe, 28 ans, il s'agit d'un retour décisif après une importante intervention chirurgicale. C'est l'heure de rentrer la Ferrari au garage pour entretien mécanique, écrivait Maxime Dufour-Lapointe sur son compte Instagram en avril. On la voyait couchée sur une civière en direction du bloc opératoire. Après avoir skié blessée toute la dernière saison, l'aînée des sœurs Dufour-Lapointe venait finalement d'apprendre qu'elle souffrait d'une importante déchirure du labrum, un cartilage de la hanche. À moins d'un an des Jeux olympiques, ça tombait plutôt mal. Mais tout n'était pas perdu. J'ai pris la décision d'être opérée, sans quoi j'aurais été incapable de batailler pour une place sur l'équipe olympique. J'ai mis les chances de mon côté, nous a-t-elle confié lors d'une rencontre à nos bureaux cet automne. La Montréalaise, auteure de 5 top 10 en 2017, se dit satisfaite de sa 11e saison de Coupe du monde. La douleur était persistante, rappelle-t-elle. La première descente de chaque journée était pénible. Quand je faisais un saut, je savais que j'allais avoir mal à l'atterrissage. Je ressentais comme des radiations. Mes muscles fessiers cessaient de fonctionner. Je ne savais pas ce que j'avais. Lors d'un test d'imagerie médicale, la nature de la blessure s'est précisée. Je m'étais engagée dans ce nouveau cycle olympique en me disant que je voulais aller au bout de mes limites, découvrir mon potentiel réel. Ça m'a amenée à vivre des expériences que je n'avais vraiment pas vu venir, à commencer par la convalescence. Ça a été beaucoup d'efforts pour maximiser ma récupération, avec d'innombrables exercices de physio, des bains froids, une chambre hyperbare. Cette pause forcée lui a été étonnamment salutaire, dit-elle. Ça fait très longtemps que je suis dans le sport. C'est la première fois en carrière que j'arrête de skier pendant 3 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre du temps pour moi. C'est un cheminement que j'ai fait seule à la maison, alors que mes sœurs s'entraînaient. Elles m'ont toujours encouragée. J'ai sauté dans cette aventure. Je suis sortie de ma zone de confort. J'en reviens plus forte. C'est ce qu'elle tentera de démontrer tout au long de la saison, et ce, dès samedi à Ruka. Elle avait terminé au 8e rang l'an dernier. À l'entraînement à Zermatt, j'ai rassemblé les morceaux, j'ai refait mes sauts et j'ai skié sans douleur. Plus j'avance, plus je suis capable de faire des choses qui m'étaient impossibles l'an dernier. Ça va continuer de se placer. J'ai énormément foi en mon équipe, en mon expérience d'athlète. La skieuse bataillera vraisemblablement pour le 4e poste olympique chez les femmes. Justine Dufour-Lapointe, Chloé Dufour-Lapointe et Andy Naud ont obtenu les meilleurs résultats l'an dernier. Ça fait partie du jeu. Je le vois comme un défi stimulant. Je savoure chaque instant. Elle a participé aux Jeux de Sochi en 2014, où elle a fini 12e. Une dernière saison? Qu'elle skie ou non à Pyeongchang, Maxime compte vivre à fond la nouvelle saison. Serait-ce sa dernière, elle prévoit faire sous peu des demandes d'admission pour étudier en médecine. À la fin de l'année, je verrai où j'en suis rendue, ce que j'ai envie de faire. Mais le sport sera toujours là. Ça nous forme en tant qu'athlète et en tant qu'être humain. Ces valeurs et apprentissages vont rester ancrés en moi pour toujours. C'est quelque chose de très précieux. Pour l'instant, elle n'a qu'une envie, être au portillon de départ et skier, comme jamais. Chose promise, chose due, je vous parle de l'article concernant le restaurant de Thierry Darès et c'est l'article de Thierry Darès et le restaurant dont il est question, c'est Accor Resto Bar à Vin. Une photo d'Anthony Plante accompagné de Jean-Martin Perrault et de Christian Duhamel qui accompagne cet article. Depuis l'ouverture, il y a environ 7 ans, il y a toujours eu de bons chefs au restaurant Accor. Anthony Plante, le jeune chef en fonction actuellement, apporte une autre dimension. Le même plat se décline en variations végétariennes ou protéines animales. 2 prix, même garniture et interprétation. Nous avons choisi les formules avec protéines animales et avons facilement évalué les 2 entités. Style de restaurant, une cuisine de produits saisonniers de qualité durable et de proximité à prix raisonnable. Des vins, nature ou bio, d'importation privée. Laissez-vous recommander car ce sont des passionnés de vin. Le chef et l'équipe de l'Accor proposent une formule vraiment réjouissante avec les mêmes créations culinaires, mais en version VG. La tendance est enclenchée pour y rester. Évidemment, les prix sont différents. On rajoute le coût de la protéine animale au prix du plat VG. Brillant. Décor et ambiance. Ambiance reposante, on peut se parler sans crier. Ici, on peut déguster des vins que l'on ne connaît pas vraiment aux appellations plus discrètes ou provenant de cépages autochtones. C'est vraiment agréable à découvrir. Pour le décor, la pierre domine et c'est parfait. Clientèle, si vous aimez le vin et la cuisine élégante, mais pas tarabiscotée, vous allez aimer Accor. Ici, c'est réfléchi et c'est rassurant. Une clientèle à visée touristique aussi, surtout l'été avec la superbe terrasse intime. Évidemment, le menu midi à 25 $ attire. Difficile de faire mieux. Le repas, des produits moins présents sur les menus en général. Évidemment, ça m'attire comme la langue de veau, braisé, shiitake, salicorne, vinaigrette au jus de viande. Ça vaut plus que 4 étoiles car le travail pour obtenir un tel résultat en bouche est considérable. La cuisson demande plusieurs étapes. Il faut vraiment le vouloir. Seule explication, le jeune chef aime son métier. C'est formidablement bien fait, d'une rare maîtrise, technique, saveur profonde, délicatesse des textures et en plus, le sel est bien ajusté. Bravo! Anguille fumée du lac Saint-Pierre, la beurasse, pickle de légumes, beignet au sarrasin. Déjà très fort avec la langue de veau, le chef continue tout en maîtrise et en délicatesse. Surtout pour le côté discret du fumage de l'anguille. Un joli et bon plat bien balancé. Lentilles du puits, crème aromatisée, crone ou crosnes, C-R-O-S-N-E-S, je ne sais pas si on prononce le S. Alors, on fera une petite recherche, puis on y reviendra peut-être aujourd'hui ou une autre fois. Trompette de la mort, céleri, 22 $ pour le plat végétarien et 32 $ pour les riz de veau croustillants. Encore dans les contrastes de texture très savoureux, les riz de veau, à la fois croquants et tendres en leur centre, parfaits. Papardelles maison, légumes racines rôties, oignons perlés, champignons boutons. La formule VG est à 19 $ avec le short rib de bœuf braisé. Comptez un total de 33 $. Servie dans une jolie cocotte, cette délicieuse préparation de saison est parfaite. À noter, manger directement dans une cocotte de fonte, ce n'est pas vraiment pratique. Mais sinon, c'était plus que savoureux. Un plat réconfortant avec un fondant au chocolat et un baba au rhum pour conclure. Le service, un service gentil et attentionné. N'hésitez pas à demander conseil pour les vins. Accor, resto bar à vin, coup de toque, 4 étoiles, une cuisine épatante, des vins à découvrir brillants. Coup de torchon, avantage ou inconvénient, une carte de vin au verre sera appréciée au tableau. Combien ça coûte? $50 par personne sans les vins. L'adresse, Accor au pluriel, resto bar à vin. 212 rue Notre-Dame-Ouest, numéro de téléphone 514-282-2020. C'est donc la chronique resto dans la section saveur resto de Thierry Darès. Alors Mathieu a fait une recherche et Mathieu Krohne, C-R-O-S-N-E-S, se dit comment?
Krohne.
Et est-ce que vous avez la définition? Je vous en demande beaucoup, hein? Bon, c'est quelque chose qui se mange, on le sait, là, mais à part de cela, on va appeler Thierry Darès.
Excusez-moi, j'ai enlevé. Ça vient du Japon, c'est une plante de la famille des Lamiacées, originaire du nord-ouest de la Chine. Ça ressemble à un tubercule. En fait, c'est de la famille du tubercule.
Bon, d'accord, donc une pomme de terre japonaise. Disons-le comme ça pour l'instant. Alors, on en sait quand même plus hein, sur la prononciation, puis sur les origines de ce mot. Merci, Mathieu, pour ces recherches. Et là, c'est vrai, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Et on se retrouve dans quelques minutes avec les paractualités.